Jack London, les 4 Samuel. Traduction de Louis Postif. Marguerite Hennan ne me produisit jamais une telle impression que le jour où je l'aperçus par hasard, portant un sac de grains de 50 kilos sur l'épaule. Elle avançait à pas menus mais sûrs de la charrette à l'écurie, et fit une pause pour reprendre haleine au pied de l'escalier menant au coffre à grains. Elle franchit les 4 marches raides, l'une après l'autre, sans se presser, sans hésiter, avec une assurance qui m'enleva toute crainte de voir le sac échapper sous le double fait du grain et des années. Sa vieillesse manifeste m'avait poussé à m'arrêter près de la voiture pour la regarder faire. 6 fois, elle accomplit le trajet de la charrette à l'écurie, avec un plein sac sur le dos, sans paraître remarquer ma présence. La voiture vide, elle chercha des allumettes dans sa poche et se mit à tirer sur une courte pipe en terre, refoulant le tabac brûlant, d'un pouce calleux et apparemment insensible. Ses mains attiraient l'attention. Musclées et déformées par la besogne, bordées de durillons, avec des ongles émoussés et brisés, et par endroits, des coupures et meurtrissures guéries ou cicatrisées, comme on en voit communément chez les hommes adonnés à de rudes travaux. Sur leurs revers saillissaient de grosses veines, indices éloquents de vieillesse et de fatigue. En les regardant, j'avais peine à me les représenter comme appartenant à une femme jadis réputée comme la plus belle de l'île McGill. Je n'appris ce détail que plus tard. Pour l'instant, j'ignorais son histoire et son identité. Elle portait de lourds brodequins, déformés et durs comme du fer, où ses chevilles nues s'enfonçaient à chaque pas avec un bruit de ventouse. Sa taille, informe et plate, disparaissait sous une grosse chemise masculine et un jupon de flanelle jadis rouge en loque. Mon attention fut arrêtée par le visage ridé, flétri, tanné par les intempéries, auréolé de cheveux gris en désordre. Ni mèche rebelle, ni rides serrées ne pouvaient déparer le superbe dôme d'un front haut et large où rien ne suggérait la moindre anomalie. Les joues creuses et le nez pincé s'accordaient mal avec la vivacité de ses yeux bleus. En dépit d'un lacis de rides, qui d'ailleurs ne réussissait pas à les amoindrir, ils restaient clairs comme ceux d'une fillette, vifs et pénétrants, vous regardant avec une franchise et une tranquillité déconcertantes. Leur écartement était notable. Heureux, dit-on, les gens dont les yeux sont séparés par la largeur d'un troisième. Mais entre ceux de Marguerite Hennan, il y avait bien place pour un œil ennemi. Néanmoins, la symétrie du visage était si parfaite que ce trait remarquable n'y produisait aucun effet anormal et échappait même à la majorité des observateurs. La bouche, informe et édentée, aux coins retombants, aux lèvres sèches et parcheminées, échappait cependant au ramollissement musculaire si fréquent chez les personnes âgées. On aurait pu comparer ses lèvres à celles d'une momie sans l'impression de fermeté inébranlable qu'elles produisaient. Loin d'être atrophiées, elles semblaient au contraire tendues et durcies par une détermination à la fois musculaire et spirituelle. Là, et dans les yeux, résidait le secret de ce calme avec lequel elles transportaient les sacs pesants sur les marches raides, sans hésitation, ni faux pas. « Vous faites un rude travail pour une femme de votre âge, » risquai-je. Elle posa sur moi son regard, étrangement fixe. Sa pensée et sa parole trahissaient une lenteur voulue et une parfaite conviction que l'éternité lui appartenant, elle n'avait nullement besoin de se presser. Je me sentis de nouveau troublé par cette assurance prodigieuse. Dans cette éternité bien à elle, le temps ne lui manquait pas pour poser les pieds bien à plat et se maintenir en parfait équilibre. Il y avait place, en un mot, pour la certitude. Et il n'y en avait aucune pour un faux pas, ni dans sa vie spirituelle, ni dans ce débardage de sacs de 50 kilos. L'impression produite était fantastique. Un hasard des plus précaires venait de me mettre en présence d'un être dépassant mes propres conceptions de l'âme humaine. Et plus je me renseignerais au cours des semaines suivantes sur le compte de Marguerite Hennan, plus elle me paraîtrait mystérieuse et lointaine, telle une inconnue tombée de quelque autre planète. Nulle remarque venant d'elle-même ou d'aucun des habitants de l'île ne m'indiquerait quelle façon de vivre, quelles ardeurs sentimentales ou quelles contemplations philosophiques avaient pu modeler son être antérieur ou actuel. J'aurai 72 ans le vendredi saint, d'aujourd'hui en 15, dit-elle en réponse à ma question. Mais vous êtes un peu âgé pour accomplir ce travail d'homme, et même d'homme solide, insistai-je. Elle parut se replonger dans son atmosphère d'éternité contemplative, et j'en fus affecté à tel point que je n'aurais pas été surpris de me réveiller un siècle ou deux plus tard pour entendre le commencement de sa réponse. Hein, il faut que le travail se fasse, et je ne veux rien devoir à personne. Mais n'avez-vous pas d'enfants ni de famille? Oh, oh, si, des quantités, mais ils ne jugent pas à propos de m'aider. Elle tira quelques instants sur sa pipe, puis ajouta en indiquant la maison d'un signe de tête. « Je vis seul. » Je jetai un coup d'œil vers l'habitation spacieuse et couverte de chaume, la grande écurie et la vaste perspective de champs qui en dépendaient évidemment. « C'est un beau morceau de terrain à cultiver vous-même. »« Oh oui, c'est grand, 70 acres. » Cela suffisait à occuper mon vieux mari, ainsi qu'un fils et un domestique. Sans parler des aides engagées pour la moisson et d'une servante pour l'intérieur. Elle grimpa dans la charrette, rassembla les rênes et me fouilla de son regard vif et perçant. « Vous venez sans doute de l'autre côté de la mer, d'Amérique, n'est-ce pas ? Oui, je suis Yankee. On ne doit pas rencontrer dans votre pays beaucoup d'indigènes de l'île McGill. Je ne me souviens pas d'en avoir vu un seul aux États-Unis. » Elle hocha la tête. Les gens d'ici sont attachés à leur pays, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne voyagent guère. Mais ils finissent par revenir à la maison, du moins ceux qui ne périssent pas en mer ou par les fièvres et autres maladies des contrées étrangères. Alors vos fils ont dû naviguer et revenir au pays? Oh oui, tous, excepté Samuel qui s'est noyé. Quand elle prononça le nom de Samuel, je crus surprendre dans ses yeux une bizarre lueur. Et par une sorte de choc télépathique, devinèrent en elle une terrible tristesse, un immense regret. Il me sembla que tel était le secret de cette nature impénétrable, le contact instantané qui me laissait entrevoir ses profondeurs, le fil conducteur qui, si je le suivais jusqu'au bout, me permettrait de déchiffrer cette âme étrange. Je grillais d'envie de lui poser une question, mais elle la devança. Elle fit claquer sa langue, pour exciter le cheval, me lança un « Bonjour, monsieur !» et la voiture s'éloigna. Les habitants de l'île McGill sont des gens simples, rustiques, et je doute qu'il existe au monde une population plus sobre, économe et laborieuse. Quand on les rencontre à l'étranger, et pour les y rencontrer, il faut les chercher sur mer, on ne les prendrait jamais pour des Irlandais. Ils prétendent l'être, et s'en vantent, parlant avec orgueil de l'Irlande du Nord et raillant leurs frères écossais. Cependant, ils sont écossais, sans conteste. Des écossais transplantés depuis longtemps, à vrai dire, néanmoins écossais, avec 1000 traits communs, y compris leur façon de s'exprimer et leur accent doucereux, que sans leur esprit de clan, ils n'auraient jamais conservé jusqu'à ce jour. Un bras de mer, large au plus d'un demi-mille, sépare l'île McGill de la terre irlandaise. Une fois ce détroit franchi, on se trouve dans un pays tout différent, où prédomine l'influence écossaise. D'abord, les insulaires sont presbytériens. En constatant qu'il n'existe pas un seul cabaret dans cette île peuplée de 7000 âmes, on se fait une idée de la tempérance de sa population. Conformément aux anciennes coutumes, l'opinion publique et les ministres du culte y exercent une puissante autorité, tandis que les pères et mères y sont respectés et obéis comme en bien peu de coins du monde moderne. On n'y fait la cour que jusqu'à 10 heures du soir, et jamais une jeune fille ne s'y promène avec un jeune homme à l'insu et sans le consentement de ses parents. Les jeunes hommes s'en vont en mer et jettent leurs gourmes dans les ports de perdition, puis reviennent entre deux voyages se retremper dans la vieille et intense moralité. Ils courtisent jusqu'à 10 heures, s'assoient le dimanche au pied du ministre et écoutent chez eux les principes sévères que les aînés leur prêchaient dans leur enfance. Les femmes leur ont appris bien des choses aux quatre coins de la terre, à ces jeunes matelots. Néanmoins, ils conservent leur sagesse avisée et ne ramènent jamais chez eux d'épouses étrangères. La seule et unique exception à cette règle était le cas du maître d'école, qui avait pris femme à un demi-mille de l'autre côté du détroit. On ne lui pardonna jamais, et une ombre obscurcit le restant de ses jours. À sa mort, son épouse retraversa le bras de mer pour retourner dans sa famille, et la barre à senestre fut effacée de l'écu de l'île McGill. En définitive, les matelots épousaient des filles de chez eux et devenaient des modèles de toutes les vertus dont s'honore cette terre fortunée. L'île McGill ne possède pas d'histoire et ne se glorifie d'aucun des événements consignés dans les chroniques. On n'y a jamais porté la cocarde verte, jamais entendu parler de conspiration de fainéants, ni de troubles agraires. Une seule éviction s'y est produite, encore était-elle de caractère purement technique. Un procès, engagé sur avis de l'avoué du fermier. L'île McGill demeure donc dépourvue d'annales. L'histoire l'a omise. Elle paie ses impôts, reconnaît ses maîtres couronnés et laisse le monde en paix. Le monde se compose de deux parties, l'île McGill et le reste de la terre. Tout ce qui n'est pas l'île McGill demeure étranger et barbare. Pour savoir à quoi s'en tenir, n'a-t-elle pas ses enfants matelots qui lui rapportent toutes les nouvelles du globe ? Ce fut par le patron d'un vapeur de fortune et en qualité de passager de Colombo à Rangoon que j'entendis parler pour la première fois de l'île McGill. Grâce à sa lettre de recommandation, je pus me présenter dans la maison de Madame Ross, veuve d'un maître d'équipage. Elle vivait dans l'île avec sa fille, et pour le moment ses deux fils naviguaient en mer. Madame Ross ne prenait pas de pensionnaire, mais au vu de la lettre du capitaine Ross, elle consentit à me recevoir. Le soir de ma rencontre avec Marguerite Hénan, j'interrogeai Madame Ross à son sujet et compris tout de suite que j'étais tombé sur un véritable mystère. Comme tous les habitants de l'île, je ne devais pas tarder à m'en apercevoir. Madame Ross manifesta d'abord une sincère répugnance à discuter le cas de Marguerite Hénan. Cependant, ce soir-là même, j'appris que Marguerite Hénan passait jadis pour la plus belle femme de l'île. Fille d'un fermier à l'aise, elle avait épousé Thomas Hénan, un fermier également riche. À part les occupations ordinaires du ménage, elle n'était pas habituée à travailler, ni même, à la différence des autres femmes de l'île, à donner un coup de main au travail des champs. « Mais où sont ses enfants ? » demandai-je. Deux de ses fils, Jacques et Timothée, sont mariés et naviguent. La grande maison près du bureau de poste appartient à Jacques. Ses filles non mariées vivent avec celles qui le sont, et les autres sont morts. « Les quatre Samuel, » interrompit Clara, avec une nuance de malice. Clara était la fille de Madame Ross, une jeune et forte personne aux traits agréables, avec des yeux noirs, d'une remarquable beauté. « Il n'y a pas de quoi plaisanter, » remontra sa mère. « Les quatre Samuel, » demandai-je, « je ne comprends pas. » « Ces quatre fils qui sont morts. » « Et tous les quatre s'appelaient Samuel ?»«
Oui. »
« C'est étrange, » remarquai-je dans le silence qui se prolongeait. « Très étrange, » confirma Madame Ross en s'activant au tricot posé sur ses genoux, un des innombrables vêtements de dessous qu'elle tricotait sans relâche pour les quartiers maîtres, ses fils. « Et les Samuel sont les seuls qui soient morts ?» demandai-je dans un nouvel effort de curiosité. « Les autres vivent encore. Une belle famille. Il n'y en avait pas de plus belle dans toute l'île. Et jamais plus beau garçon n'en sont partis pour naviguer. » Le ministre les citait comme modèles, et jamais le moindre scandale n'a éclaboussé les filles.
« Mais comment se fait-il qu'elle se trouve seule dans sa vieillesse ? » insistai-je. « Pourquoi ses propres enfants ne s'occupent-ils pas d'elle ? Pourquoi cet isolement ? Ne vont-ils jamais la voir, ni la soigner ? » ?»«
Jamais aucun d'eux n'y est allé, depuis plus de 20 ans. C'est elle qui a attiré cette solitude sur sa tête. Elle les a chassés de la maison, comme elle a chassé de la vie le vieux Tom Hénan, son défunt mari.
« La boisson ?
hasardai-je ?
Madame Ross secoua la tête avec dédain, comme si la boisson était une faiblesse au-dessous des âmes les moins fermes de l'île McGill. Un long silence suivit, durant lequel Madame Ross tricota plus résolument que jamais. Elle fit seulement un signe d'acquiescement lorsque l'amoureux de Clara, second à bord d'un des navires de la Linkshire, vint chercher la jeune fille pour une promenade. Je remarquai une demi-douzaine d'œufs d'autruche, suspendus dans une encoignure, comme une grappe de fruits monstrueux. Sur chaque coquille étaient peintes d'énormes vagues invraisemblables, écumant au passage, de navires gréés de toutes pièces dont la perfection technique rachetait le manque de perspective. Sur le manteau de la cheminée miroitaient deux grandes écailles jumelles d'huîtres perlières, ciselées par les mains patientes de forçats de la Nouvelle-Calédonie. Entre les deux se dressait un oiseau de paradis empaillé. Un peu partout dans la pièce étaient dispersés de magnifiques coquillages des mers du Sud, de délicates branches de corail sous globe, des sagaies de l'Afrique australe, des haches de pierre de la Nouvelle-Guinée, de grosses blagues à tabac de l'Alaska brodées de totems en perles, un boomerang australien, une demi-douzaine de navires en bouteille, un bol de cannibales des Marquises, quelques fragiles boîtes de la Chine et des Indes orientales, incrustées de nacre et marquetées de bois précieux. En regardant ces trésors, rapportés par les fils de la maison, je réfléchissais au mystère de Marguerite Hennan, qui avait poussé son mari à la tombe et que ses enfants avaient abandonné. Sinon à la boisson, à quoi attribuer cette décadence ? À quelque monstrueuse cruauté ? À quelque infidélité retentissante ? Ou à l'un de ces terribles crimes que commettent parfois ces paysans de l'ancien monde ? Mais à mesure que je soumettais mes hypothèses à Madame Ross, elle hochait la tête. « Vous n'y êtes pas, dit-elle. Marguerite fut une bonne épouse et bonne mère, et je la crois incapable de faire du mal à une mouche. Elle a élevé sa famille dans la crainte du Seigneur et d'après les bons principes. L'ennui, c'est qu'elle devint lunatique, idiote. » Et pour me faire mieux comprendre, elle se tapota le front. « Mais j'ai causé avec elle tantôt, objectai-je. Et elle m'a produit l'effet d'une femme très sensée et d'une lucidité remarquable pour son âge. « Oui, tout ce que vous dites est vrai, continua-t-elle tranquillement. Mais ce n'est pas à cela que je fais allusion. Je veux parler de sa mauvaise tête et de son obstination insensée. Il n'y a jamais eu au monde de femme plus entêtée. Et tout cela à cause du nom de Samuel, qui était celui de son plus jeune frère, celui, paraît-il, qu'elle aimait le mieux, qui se suicida par la faute du ministre presbytérien qui avait omis de déclarer et de faire bénir l'église neuve à Dublin. C'était signe que le nom portait malheur, mais elle ne voulut pas l'admettre, et les gens jasèrent quand elle donna le nom de Samuel à son premier-né, celui qui mourut du croup. Et ne s'avisa-t-elle pas de redonner le nom au suivant ? Celui-ci périt à l'âge de 3 ans, en tombant dans un baquet d'eau bouillante. Tout cela, vous dis-je, provient de son absurde entêtement. Il lui fallait un Samuel, et cette obstination causa la mort de ses 4 fils. Après le décès du premier, la mère de Marguerite ne s'était-elle pas agenouillée dans la poussière à ses pieds, la suppliant de ne pas donner ce nom de Samuel à son prochain enfant ? Mais pas moyen de la détourner de sa résolution. Marguerite Hennan n'en a jamais fait qu'à sa façon, et ne s'est jamais montrée aussi obstinée qu'à propos de ce nom de Samuel. Elle raffolait positivement de ce nom-là, le croiriez-vous ? Tous ses voisins et même ses parents et alliés, sauf ceux qui habitaient avec elle, se levèrent et sortirent au moment du baptême du second, celui qui fut ébouillanté. À l'instant où le ministre, ayant demandé quel serait le nom de l'enfant, elle répondit « Samuel ». Ils se levèrent et quittèrent la maison. Et sur le seuil, Fanny, sa tante maternelle, se retourna et dit de façon à être entendue de tout le monde « Pourquoi donc veut-elle assassiner ce pauvre gosse ?» Le ministre n'en perdit pas une parole, et cela ne lui fit pas plaisir. Mais comme il le dit plus tard à Moncari, qui pouvait-il faire ? Tel était le désir de cette femme, et il n'y a pas de loi pour empêcher une femme de donner à son enfant le nom qui lui plaît. Il y eut donc un 3e Samuel. Et quand il eut péri en mer au large du cap de Bonne-Espérance, ne viola-t-elle pas toutes les lois de la nature en mettant au monde un 4e fils ? Elle avait 47 ans, je vous le déclare, et à cet âge-là, elle eut un enfant, pensez donc, à 47 ans. Ce fut un scandale pur et simple. De la bouche de Clara, le lendemain matin, j'appris l'histoire du frère préféré de Marguerite Hénan. Et de ci de là, au cours de la semaine suivante, je reconstituais la tragique histoire de cette femme. Samuel Dundee était le plus jeune de ses quatre frères, et au dire de Sarah, elle professait pour lui une véritable adoration. Il naviguait en ce temps-là comme patron d'un voilier de la ligne Banks, et il épousa Agnès Hewitt. On dépeignait celle-ci comme un feu follet, une mince créature aux traits délicats, douée d'une organisation nerveuse des plus sensitives. Leur mariage avait été le premier qui fut célébré dans l'église neuve, et après une lune de miel de 2 semaines, Samuel embrassa sa femme et alla prendre le commandement du Lovebank, un 4-mâts barque. Ce fut au sujet de cette église neuve que le ministre commit une bévue. Il n'en était pas le seul responsable, comme me l'expliqua plus tard un des anciens. La responsabilité en fut répartie sur tout le presbytère de Goughlin, qui comprenait une 15aine d'églises dans l'île et sur la Grande Terre. La vieille église, ne pouvant plus être réparée, avait été démolie, et la nouvelle fut construite sur les mêmes fondations. Le ministre et le chef du presbytère, assimilant ces fondations à une carène de navires, ne conçurent même pas l'idée que l'église neuve pût être considérée légalement comme différente de l'ancienne. 3 couples y furent mariés au cours de la première semaine, dit Clara. Samuel Dundee et Agnès Hewitt les premiers, puis le lendemain Albert Mahan et Minnie Duncan. Et à la fin de la semaine, Eddie Troy et Flo McIntosh. Les 3 hommes étaient marins, et au bout de 6 semaines, ils avaient tous rejoint leur navire et étaient partis en mer sans se douter le moins du monde de leur fausse position. Le démon de la perversité dut se pâmer de rire devant la situation. Tout concourait à la corser. Les mariages avaient été célébrés dans la première semaine de mai, et ce fut seulement au bout de 3 mois que le ministre, conformément à la loi, adressa son rapport trimestriel aux autorités civiles de Dublin. Il reçut une prompte réponse, l'avertissant que son église ne possédait pas d'existence légale dès lors qu'elle n'était pas déclarée selon la loi. Naturellement, le pasteur s'empressa de remplir cette formalité. Mais on ne pouvait raccommoder les mariages avec la même facilité. Les 3 marins voguaient en mer, et bref, leurs femmes n'étaient pas leurs épouses. Mais le ministre ne voulait pas alarmer les gens, dit Clara. Il resta quoi et attendit le retour des navigateurs. Il se trouvait par hasard à l'autre bout de l'île pour célébrer un baptême, lorsque Albert Mahan rentra à l'improviste, son navire étant au bassin de Dublin. 9 heures du soir sonnait quand le ministre, en pantoufles et robe de chambre, apprit la nouvelle. Il se lève d'un bond, demande un cheval et une selle, et court comme le vent à la recherche d'Albert Mahan. Celui-ci allait se mettre au lit et s'était déjà déchaussé d'un pied quand le pasteur arrive. « Venez avec moi tous les deux !» crie le pasteur hors d'haleine. « Pourquoi faire, alors que je suis éreinté et en train de me coucher ?» demande Albert. « Pour que je vous marie légalement !» dit le ministre. Albert lui jette un regard sombre et s'écrie « Mais voyons, mon révérend, vous plaisantez !» Mais en lui-même, comme il me le confia plus tard, il s'étonnait que le ministre s'adonnât au whisky si tard dans la vie. « Nous ne sommes pas mariés, proteste Minnie. » Le révérend fait un signe de dénégation. « Et je ne suis pas Madame Mahan ?»« Non, dit-il, vous n'êtes pas Madame Mahan. Vous êtes tout simplement Mademoiselle Duncan. »« Mais vous nous avez mariés vous-même, dit-elle. »« Je vous ai marié sans vous marier, répond-il. » Et là-dessus, il leur raconte toute l'histoire. Albert remet son soulier. Tous 2 s'en vont avec lui, et cette fois ils sont mariés selon les règles. Comme devait dire plus tard Albert Mahan, « Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aient eu 2 nuits de noces dans l'île McGill. » 2 mois après, Eddie Troy vint en congé et fut promptement remarié. Mais Samuel Dundee était parti pour un voyage de 3 années et n'arriva point au terme fixé. Pour compliquer la situation, un petit garçon de plus de 2 ans l'attendait dans les bras de sa mère. Les mois se passaient et la jeune femme dépérissait d'inquiétude. « Ce n'est pas pour moi que je me tracasse, disait-elle fréquemment. C'est pour ce pauvre enfant sans père. » Si un malheur arrivait à Samuel, dans quelle situation se trouverait le petit? Le bureau Lloyds porta manquant le Lovebank, et les propriétaires cessèrent d'envoyer à la femme de Samuel sa demi-solde mensuelle. Mais ce fut surtout la question de légitimité de l'enfant qui dérangea l'esprit de sa mère. Quand tout espoir du retour de Samuel fut abandonné, Agnès Hewitt alla se noyer avec son bébé dans le détroit. Et c'est ici que se corse la tragédie. Le Love Bank n'était pas perdu. Par suite d'une série de désastres et de retards inénarrables, il avait fait, sans pouvoir donner de nouvelles, un de ces voyages prolongés qu'on enregistre une fois ou deux au cours d'un demi-siècle. Comme le démon devait se tenir les côtes. Samuel revint, et quand il apprit la nouvelle, quelque chose se brisa dans son cœur ou dans sa tête. Le lendemain matin, on le trouva étendu sur la tombe de sa femme et de son enfant où il avait essayé de se tuer. Jamais, dans l'histoire de l'île McGill, on n'avait entendu parler d'un moribond aussi terrible. Il cracha à la figure du ministre, le traita de tous les noms, et mourut en proférant des blasphèmes effroyables, à tel point que ceux qui le soignaient accomplissaient leur besogne avec des mains tremblantes et en détournant la tête. Et malgré tout cela, Marguerite Hennan donna à son premier-né le prénom de Samuel. Comment expliquer l'obstination de cette femme, ou peut-être l'obsession morbide qui la poussait à baptiser ainsi l'un de ses fils? Son troisième enfant fut une fille, à laquelle elle octroya son propre prénom, et le quatrième fut encore un garçon. En dépit des coups dont le destin l'avait déjà frappée et de ruptures imminentes avec parents et amis, elle s'entêta à vouloir donner à son enfant le prénom de son frère. Ses amis d'enfance lui tournèrent le dos à l'église. Sa propre mère, après une dernière supplication, quitta sa maison en l'avertissant qu'elle ne lui adresserait plus la parole de sa vie si elle faisait baptiser son enfant sous ce nom. Et la vieille dame tint parole pendant les 30 années qu'elle survécut. Le ministre consentit à baptiser l'enfant sous n'importe quel nom, excepté celui de Samuel, et tous les autres ministres de l'île McGill firent la même restriction. Marguerite Hennan songea un instant à recourir à la loi, mais en définitive, elle porta l'enfant à Belfast et le fit baptiser sous le nom de Samuel. Et alors, comme un démenti donné à l'île entière, il ne se passa rien d'anormal. Le garçon grandit et prospéra. Le maître d'école ne cessait de le vanter comme le plus intelligent de tous ses élèves passés et actuels. Doué d'une splendide constitution, Samuel s'accrochait fortement à la vie. À l'étonnement général, il échappa aux malaises ordinaires de l'enfance. Il ignora rougeole et coqueluche, oreillons et migraines. Il semblait cuirassé contre les microbes et à l'abri de toute contagion. Et au dire d'un ancien, jamais clous ni boutons n'apparurent sur cette peau saine. Il battit tous les records scolaires en instruction comme en éducation physique, et il rossa tous les garçons de son âge et de sa taille dans l'île McGill. Quel triomphe pour Marguerite Hennan! Ce parangon était son fils et portait le nom qu'elle préférait. À l'unique exception de sa mère, ses parents et amis lui revinrent et reconnurent leur erreur, bien que certains vieux radoteurs, ancrés dans leur opinion, hochassent la tête avec réserve en prenant leur tasse de thé. Ce garçon-là leur paraissait trop parfait pour vivre et n'échapperait pas à la malédiction du nom imposé par sa mère. Mais la jeune génération se joignait à Marguerite pour rire de ses barbons au chef branlant. D'autres enfants vinrent à Marguerite. Son cinquième fut un garçon, qu'elle appela Jacques. Trois filles suivirent en rapide succession, Alice, Sarah et Nora, puis un petit Timothée et encore deux filles, Florence et Catherine. Cette dernière était la 11e, et Marguerite Hennan, à 35 ans, se départit de ses prouesses. Elle avait bien rempli son devoir envers l'île McGill et la reine d'Angleterre. Il lui restait 9 enfants en bonne santé. Tout allait bien, et la mort des deux premiers semblait avoir apaisé la malchance. 9 enfants prospéraient, et l'un d'eux se nommait Samuel. Jacques choisit la carrière maritime, bien que ce fût moins une affaire de choix qu'une obligation. Dans l'île McGill, les aînés cultivaient la terre, les autres labouraient les vagues. Timothée suivit l'exemple de Jacques, et quand ce dernier reçut son premier commandement, celui d'un vapeur de cabotage de Cardiff, Timothée était second sur un grand navire à voile. Cependant, Samuel ne mordait guère à la terre. La vie de fermier ne lui disait pas grand-chose. Ses frères s'en allaient en mer, non par vocation, mais faute d'autres moyens de gagner leur pain. Et l'autre, qui n'avait pas besoin de partir, enviait leur sort quand, revenu de lointain voyage et assis près du feu dans la cuisine, il narrait les merveilles des pays d'outre-mer. Samuel s'adonna à l'étude, et au grand désappointement de son père, alla à Belfast passer des examens et conquérir des diplômes supplémentaires. Quand le vieux maître d'école prit sa retraite, Samuel le remplaça. En secret, cependant, il étudiait la navigation. Et Marguerite était charmée lorsque, assis près du feu avec ses frères, et en dépit de leur brevet de second, il les embrouillait dans les détails théoriques de leur profession. Tom Hennan, seul, fut profondément scandalisé lorsque Samuel, instituteur gentleman et héritier de la ferme Hennan, s'engagea sur un navire en qualité de matelot. Marguerite avait une confiance aveugle en l'étoile de son fils, et tout ce qu'il faisait lui paraissait judicieux. Conformément à la veine attachée à la glorieuse personnalité de Samuel, jamais on ne vit un matelot monter plus rapidement en grade. 2 ans à peine après son entrée dans le poste d'équipage, il passa derrière le mât en qualité de second stagiaire. Cela se passait dans un port fiévreux de la côte occidentale, et le comité de patrons qu'il examina sur la science de la navigation reconnut qu'il en savait plus long qu'il n'en avait oublié eux-mêmes. 2 ans après, il partait de Liverpool en qualité de second, sur la Starry Grace, ayant en poche ses 2 brevets de second et de capitaine au long cours. Et alors se produisit l'événement dont la prévision faisait hocher la tête aux vieux insulaires. Il me fut raconté par Gavin McNabb, quartier maître en ce temps-là à bord de la Starry Grace et originaire lui-même de l'île McGill. « Je m'en souviens comme d'hier, dit-il. Nous faisions route vers l'est et luttions contre le mauvais temps. Il n'y eut jamais un meilleur marin que Samuel Hennan. Je me rappelle son expression ce matin-là tandis qu'il regardait les grosses vagues qui nous arrivaient par l'arrière, et observait la façon dont se comportait le navire. Le capitaine était en bas et passait ses journées à boire. À 7 heures, Hennan ramena le navire tête au vent, n'osant plus le faire courir vent arrière dans cette mer démontée. À 8 heures, après déjeuner, il descendit, et une demi-heure après, le capitaine monta, les yeux troubles, la démarche incertaine, et se cramponnant à l'échelle. Ça bardait, je vous prie de le croire, et il restait là, clignant les yeux, hochant la tête et marmottant tout seul. « Ôte-toi de là !» dit-il enfin à l'homme de barre. « Mon Dieu !» s'écria l'aide-second qui se tenait près de lui. Le capitaine ne le regarda même pas, il continuait son soliloque. Et tout à coup il se redresse et relève la tête en criant « Mets la barre dessus, mon bonhomme ! Que le diable t'emporte ! Es-tu sourd à ne pas entendre ?» Une vraie veine d'ivrogne. La Starry Grace vira devant une tempête de tous les diables sans embarquer une goutte d'eau, tandis que l'aide-second hurlait des ordres et que l'équipage se précipitait affolé. Sur quoi le capitaine hocha la tête avec satisfaction et redescendit faire son plein de whisky. Un véritable attentat contre nos vies à tous, ni plus ni moins, car ce n'était pas le moment, même pour le plus gros navire du monde, de courir vent arrière. Courir, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était inimaginable, et pourtant voilà 40 ans que je bourlingue sur les mers en comptant mes années de mousse. C'était effrayant, je vous l'affirme. L'aide-second était pâle comme un mort, il resta seul pendant une demi-heure. Puis n'y pouvant plus tenir, il descendit appeler Samuel et le 3e second. Un fameux marin que ce Samuel, mais c'en était trop pour lui. Il regarda et observa, examinant la situation sous toutes ses faces, sans y trouver d'issue. Il n'osait pas mettre en panne. Le navire aurait été balayé de tous ses hommes et de tous ses agrès avant de se redresser. Il n'y avait rien à faire qu'à continuer de courir. Et si le temps empirait, nous étions perdus de toute façon, car tôt ou tard, cette mer démontée nous emporterait par-dessus la poupe. Vous ai-je parlé tout à l'heure d'une tempête de tous les diables? C'était encore bien pis. Satan en personne devait mettre la main au bouillon. J'ai vu pas mal d'horreurs, mais je ne tiens pas à en revoir une pareille. Pas un homme de l'équipage n'osait se mettre dans son hamac. Non, pas un ne se tenait dans l'entrepont. Groupé sur le rouf, il regardait en se cramponnant. Les 3 seconds se tenaient sur le gaillard d'arrière avec les 2 timoniers, et le seul individu en bas était le capitaine qui ronflait, ivre mort. Et alors je la vis venir, à 1 mille de distance, dominant toutes les autres comme une île, la vague la plus grosse que j'ai aperçue de ma vie. Les 3 seconds, l'un à côté de l'autre, la regardaient, priant comme nous tous qu'elle ne se brisât pas au passage. Mais il devait en être autrement. À la dernière minute, au moment où elle se dressait comme une montagne, surplombant l'arrière et cachant le ciel, les 3 officiers se dispersèrent, le 2nd et le 3e se hâtant vers le mât d'Artimon pour y grimper, le 1er courant au gouvernail pour y prêter main forte. C'était un homme brave, ce Samuel Hennan. Il se précipitait au-devant de cette mer de toutes les vagues, pensant non pas à lui-même, mais au navire. Les deux timoniers étaient attachés à la roue, mais ils voulaient être prêts à les remplacer s'ils étaient tués. La vague arriva. Nous autres, sur le rouf, nous pouvions voir le gaillard d'arrière à cause des milliers de tonnes d'eau qui s'y déversèrent. Cette vague nettoya tout, emporta tout. Les deux seconds en train de grimper dans les haubans d'Artimon, Samuel Hénan courant vers le gouvernail, les deux timoniers attachés à la barre et la barre elle-même. Nous ne devions plus revoir aucun d'eux, car le navire coiffa à l'absence de gouvernail et deux hommes de l'équipage furent arrachés du rouf, sans parler du charpentier que nous ramassâmes à la coupée derrière, les membres en marmelade. Et ici intervint le miracle, la merveilleuse preuve de l'esprit héroïque de cette femme. Marguerite Hénan comptait 47 ans lorsque lui parvint la nouvelle de la mort de Samuel. Et peu de temps après, l'incroyable rumeur se répandit dans l'île. Je dis bien incroyable, car les habitants eux-mêmes ne voulaient pas y croire. Le docteur Hall s'en moqua, et tout le monde en fit des gorges chaudes. On attribua le commérage à Sarah Dack, domestique des Hénan, la seule qui demeura avec Marguerite et son mari. Sarah persista dans son affirmation et fut traitée de menteuse. Une ou deux personnes se risquèrent à questionner Tom Hénan lui-même, mais leur audace ne leur attira que jurons et reproches. La rumeur s'apaisa, la tension générale étant maintenant accaparée par le naufrage dans les mers de Chine, du Grenoble, dont tous les officiers et la moitié de l'équipage étaient nés et mariés dans l'île McGill. Cependant, la rumeur ne s'éteignait point. Sarah la colportait de moins en moins discrètement, Tom Hénan paraissait plus sombre que jamais, et le docteur Hall, après une visite à la maison Hénan, ne s'engossait plus. L'île McGill se ressaisit, et les commerces en donnèrent à cœur joie. C'était un défi à la nature et au ciel. Jamais on n'avait entendu parler d'une chose pareille. Lorsque l'évidence s'imposa, les insulaires déclarèrent comme le maître d'équipage de la Starry Grace que Satan en personne devait y avoir mis la main. Et d'après les récits de Sarah, la mère infatuée affirmait que ce serait un garçon. « J'ai porté 11 enfants, disait-elle, 6 filles et 5 garçons, et ma balance doit se conformer à l'équilibre universel. 6 d'un sexe et une demi-douzaine de l'autre. Voilà l'équilibre. Et aussi sûr que le soleil se lève au matin, ce sera un garçon. » De fait, ce fut un garçon, et un merveilleux garçon. Le docteur Hall s'extasiait sur sa perfection physique et sa force considérable et écrivit un mémoire pour signaler à la Société médicale de Dublin le cas le plus intéressant qu'il eût rencontré au cours de sa longue carrière. Quand Sarah révéla le poids prodigieux du bébé, toute l'île la traita encore une fois de menteuse. Mais lorsque le médecin jura l'avoir pesé lui-même, l'île se tint coite et accepta désormais tous les bavardages de Sarah au sujet de la croissance et de l'appétit de l'enfant. Et cette fois encore, Marguerite Hénan alla à Belfast et le fit baptiser sous le nom de Samuel. Il valait son pesant d'or, me dit Sarah. Sarah Dack, à l'époque où je la rencontrais, était une vieille fille de 60 ans, munie d'une provision d'expérience si tragique que ses dires auraient conservé tout leur intérêt pour ses commères, lors même que sa langue eût marché pendant 10 ans sans discontinuer. « Il valait son pesant d'or, déclarait Sarah Dack. Jamais il ne s'agitait. Assis au soleil pendant des heures, il ne bougeait pas tant qu'il n'avait pas faim. Et d'une force, quand il vous serrait la main, on aurait dit un homme. Je m'en souviens, quelques heures après sa naissance, il me serra si fort que je poussai un cri presque d'effroi. Avec cela, une santé merveilleuse. Il dormait et mangeait et grandissait, sans jamais inspirer la moindre inquiétude. Jamais il ne fit perdre à personne une nuit de sommeil, ni même une minute, même quand ses dents perçaient. Marguerite le faisait sauter sur ses genoux et demandait si on n'avait jamais vu plus beau petit gars dans les 3 royaumes. Il grandissait à proportion de ce qu'il était. À 1 an, on lui en aurait donné 2. Il faisait bien des bruits de gargouille dans la gorge et rampait à 4 pattes, mais il fut lent à marcher et à parler. On pouvait s'y attendre au train où il poussait. Tout s'en allait en force et en santé. Le vieux Tom Hénan lui-même se réjouissait de le voir si solide. Le médecin fut le premier à concevoir quelques soupçons. Je m'en souviens bien. Et cependant, j'étais loin de me douter de quoi il retournait. Je le voyais faire passer des objets devant les yeux de Samuel et produire des bruits forts ou doux, loin ou près des petites oreilles. Puis le médecin s'en allait, les sourcils froncés, en secouant la tête comme si le gosse était malade. Mais j'aurais pu jurer le contraire, moi qui le voyais manger et grandir. Cependant, le médecin ne disait rien à Marguerite, et ce n'était pas mon affaire de deviner ce qui l'inquiétait. Je me souviens encore du jour où le petit Samuel parla pour la première fois. Âgé de 2 ans alors, il possédait la taille d'un enfant de 5 ans, bien qu'il ne pût encore réussir à marcher. Il courait à 4 pattes, heureux et content, pourvu qu'on lui donnât à manger promptement et fréquemment, si fréquemment que c'en était extraordinaire. J'étais en train d'étendre du linge à sécher quand le voilà qui s'amène, balançant sa grosse tête à droite et à gauche et clignant des yeux au soleil. Et tout à coup il parla. J'en fus tellement saisi que je faillis mourir de frayeur. Et je compris tout de suite les hochements de tête du docteur Hall. Parler. Jamais gosse de l'île McGill ne parla si fort et de façon si déterminée. Il n'y avait pas à s'y tromper, j'en demeurais toute tremblante. Le petit Samuel braillait. Je vous le déclare, monsieur, il se mit à braire comme un âne, tout pareil. Si fort, si longtemps et si joyeusement que je craignais qu'il ne se rompît les poumons. Il était idiot, monstrueusement idiot. Après cela, le médecin révéla tout à Marguerite, mais elle ne voulut point le croire. Elle était d'avis qu'il se remettrait, qu'il grandissait trop pour faire autre chose. « Prenez patience, disait-elle, et nous verrons. » Mais le vieux Tom Hennant savait à quoi s'en tenir, et à dater de ce jour, il ne releva plus jamais la tête. Il ne pouvait plus supporter le pauvre être, ni se résoudre à le toucher, bien que, j'en suis certaine, l'enfant exerça sur lui une sorte de fascination. Je l'ai vu souvent, caché dans quelque coin, le regarder, les yeux dilatés d'horreur, et quand l'autre se mettait à brailler, se boucher les oreilles avec un tel air de désespoir qu'il me faisait pitié. Et le pauvre petit s'y entendait à braire. C'était tout ce qu'il savait faire, outre manger et grandir. Il braillait chaque fois qu'il avait faim, et on ne pouvait l'arrêter qu'en lui donnant à manger. Le matin, dès qu'il sortait de la cuisine et voyait le soleil, il poussait des hurlements. Voilà ce qui causa sa perte. Je m'en souviens bien, il avait alors 4 ans, et la taille d'un enfant de 10 ans. Le vieux Tom allait de mal en pis, il marmottait et causait tout seul en labourant ses champs. Le matin du jour en question, il était assis sur un banc en dehors de la cuisine, en train de remmancher une hache. Sans qu'il s'en aperçût, l'idiot se glissa vers la porte et salua le soleil, à sa façon habituelle. Je vois le vieux tressaillir et se retourner. L'idiot était là, dodelinant de la tête, clignant des yeux au soleil et braillant comme un âne. C'en était trop pour Tom. Quelque chose se brisa dans sa cervelle. Il se leva d'un bond et asséna un coup de manche de hache sur la tête de l'être monstrueux. Puis il frappa à coups redoublés, comme s'il avait affaire à un chien enragé qui lui faisait peur. Ensuite, il gagna l'écurie et se pendit à une poutre. Après quoi, ne voulant plus rester dans cette maison, j'allais demeurer chez ma sœur, qui avait épousé John Martin et vivait à l'aise. Assis sur le banc près de la porte de la cuisine, je regardais Marguerite Hennant enfoncer de son pouce calleux le tabac dans sa pipe et promener ses regards sur les champs assombris par le crépuscule. J'occupais la place même où Tom Hennant était assis en cette journée tragique qui fut la dernière de sa vie. Marguerite était accroupie sur le seuil même de cette porte où le monstre, clignant des yeux et balançant la tête, était venu si souvent braire au soleil. Nous causions depuis 1 heure, elle avec cette certitude d'éternité qui convenait si bien à sa lenteur, moi, incapable de mettre le doigt sur les mobiles de son étrange personnalité. Martyre de la vérité, adorait-elle cette divinité si abstraite? La considérait-elle comme le but suprême des efforts humains, dès ce jour lointain où elle donnait à son premier-né le prénom de Samuel? Ou bien possédait-elle l'obstination du bœuf, l'entêtement de la mule et l'opiniâtreté du paysan? Était-ce une lubie de folle, seul trait de fantaisie de ce caractère éminemment rationnel? Ou au contraire, possédait-elle l'esprit d'un Bruno? Convaincue de la droiture de son attitude intellectuelle, soutenait-elle contre la superstition une opposition ferme et lucide? Ou bien encore, au fin fond de sa mentalité, était-elle dominée par quelque superstition plus vaste et plus profonde? Par une adoration fétichiste, dont l'alpha et l'oméga se résumaient en ce terme magique de « Samuel ». « Viendrez-vous me dire, demanda-t-elle, que si le second Samuel avait reçu le prénom de Laurent, il ne se serait pas noyé dans l'eau bouillante ? Entre nous, monsieur, et vous avez l'air intelligent, est-ce qu'une différence de nom y pouvait quelque chose ? Est-ce que la lessive n'aurait pas eu lieu ce jour-là si l'enfant s'était appelé Michel ? Cela aurait-il empêché l'eau d'être bouillante ou l'eau bouillante de brûler le pauvre enfant ? » Je reconnus la justesse de son raisonnement, et elle poursuivit. Quelques lettres de plus ou de moins dans un nom peuvent-elles modifier les plans du Tout-Puissant ? Dieu n'est-il qu'une pauvre créature indécise, prête à changer la destinée des hommes, parce qu'un pauvre ver de terre comme Marguerite Hénan a jugé à propos de donner à son gamin le nom de Samuel ? Tenez, il y a mon fils Jacques, qui ne voudrait pour rien au monde engager un Finlandais russe dans son équipage, parce qu'il croit que ces gens-là dirigent les vents et peuvent amener le mauvais temps à volonté. Croyez-vous à cette baliverne ? Pensez-vous que Dieu, qui fait souffler les vents, prête l'oreille de là-haut pour écouter les ordres d'un Finlandais couché dans le poste d'équipage d'un sale bateau ? Je déclarai le fait parfaitement impossible, mais rien ne pouvait l'empêcher de pousser à fond la discussion. Alors ce Dieu, qui dirige les étoiles dans leur course, et sous les pieds de qui ce monde n'est qu'un tabouret, pensez-vous qu'il concevrait du dépit contre Marguerite Hénan et enverrait une grosse vague au large du cap de Bonne-Espérance pour entraîner son fils dans l'éternité, tout cela parce qu'elle avait voulu le nommer Samuel ? Mais pourquoi ce nom de Samuel, demandai-je ? Ah, cela, je n'en sais rien. C'était mon désir. Mais pourquoi était-ce votre désir ? Comment voulez-vous que je réponde à semblable question ? Qui peut dire le pourquoi de choses pareilles ? Mon Jacques raffolait du lait de beurre. Il en buvait, comme il disait, jusqu'à noyer ses dents de derrière, tandis que mon Timothée ne pouvait pas le sentir. J'aime à écouter les grondements, roulements et tout le tintamarre du tonnerre. Ma fille Catherine ne peut pas en supporter le bruit, mais se sauve en criant pour s'enfouir la tête sous un édredon. Je n'ai jamais entendu répondre au pourquoi des choses. Dieu seul pourrait le dire. Vous et moi qui sommes mortels, nous ne le pouvons pas. Il nous suffit de savoir ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. J'aime, voilà le premier et le dernier mot du langage. Et derrière ce j'aime, nul être humain ne peut deviner le pourquoi. J'aime le nom de Samuel, et je l'aime bien. C'est un nom doux, contenant une harmonie merveilleuse. Le crépuscule s'approfondissait, et je regardais en silence le dôme splendide de ce front que l'âge ne parvenait pas à déformer. Cet écart des yeux, et ses yeux eux-mêmes, clairs, vigilants et voyant large. Elle se leva comme pour me congédier, en disant « Vous n'y verrez pas clair pour rentrer chez vous, et je crois bien sentir de l'eau dans l'air. » « Éprouvez-vous des regrets, Marguerite Hénan ? » demandai-je brusquement et sans préméditation. Elle m'observa un moment. « Oui, je regrette de ne pas avoir mis au monde un autre fils. »« Et vous l'auriez... » balbutiai-je. « Oh, certainement, » répondit-elle. « Je lui aurais donné le nom de Samuel. » Je descendis le chemin sombre entre deux haies d'aubépine, me demandant le pourquoi des choses, en répétant à haute voix le nom de Samuel et écoutant l'euphonie de ce mot qui avait enchanté cette âme et l'avait conduite dans les sentiers tragiques de la vie. Samuel, certes, c'était un nom fluide et harmonieux, comme le chant des sirènes.